Il est 7.
Nous, on voulait que la société, que le système, que tout le monde reconnaisse que c'était un meurtre, que notre fils avait été victime. C'est fait.
La satisfaction du papa d'Arthur Noyer cette nuit. Nordal Lelandais a été reconnu coupable du meurtre de son fils. Il est condamné à 20 ans de prison. La préparation du déconfinement dans les commerces et au gouvernement, les autorités veulent jouer la vigilance pour les ponts et les vacances. Des centres de tests pourraient être installés dans les gares et sur les aires d'autoroute. Dans ce journal aussi, la mise en examen du tueur présumé du policier d'Avignon et les allocations familiales à la française dont pourrait s'inspirer la Chine pour relancer la natalité qui atteint un plus bas historique. Juste après ce journal, journal L'Éclairage Écho, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouet.
La gauche au pouvoir au Danemark fait tout pour dissuader les migrants. Un projet de loi pour envoyer au diable les demandeurs d'asile. Ils seront confiés au Rwanda.
L'édito sport, Virginie Fulpin. Et puis avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern, notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, d'où vient cette expression « tailler des croupières » ?
La réponse dans une vingtaine de minutes. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Debout, les mains jointes, Nordal Lelandais, impassible hier soir à l'annonce du verdict. 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers. L'ancien maître chien est condamné pour le meurtre d'Arthur Noyer.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Vous étiez hier soir à la cour d'assises de Chambéry qui s'est attachée à se prononcer sur cette seule affaire.
Oui, le président s'y était engagé dès le premier jour d'audience. Il avait assuré à Nordal Lelandais qu'il serait jugé comme tous les accusés avec les mêmes droits, en faisant abstraction du contexte médiatique. Loin du fantasme d'un tueur en série, Nordal Lelandais a donc été jugé comme un homme ordinaire. Sa version des faits, celle d'une bagarre qui a mal tourné, n'a tout simplement pas convaincu les jurés. La cour d'assises a retenu le meurtre comme l'espérait la famille d'Arthur Noyer. Et Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordal Lelandais, l'a annoncé dès hier soir, son client ne fera pas appel.
On voulait simplement qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait et uniquement ce qu'il a fait. Refermons ce dossier, ayons une pensée pour Arthur Noyer, ce jeune homme qui n'aurait pas dû mourir et qui malheureusement est mort.
C'est une autre bataille judiciaire qui attend déjà Nordal Lelandais, mis en examen pour le meurtre de Maëlys en août 2017. Le procès devrait se tenir l'an prochain à Grenoble et cette fois-ci, l'ancien maître chien risque la prison à perpétuité.
Marion Dubreuil à Chambéry pour Europe 1 et Didier Noyer, le père de la victime de Nordal Lelandais, s'est dit globalement satisfait de ce verdict.
L'actualité ce matin se joue aussi en Israël, entre tirs de roquettes et raids israéliens.
L'armée israélienne assure avoir procédé à ses plus importantes frappes sur la bande de Gaza depuis 7 ans et ce n'est pas fini, a prévenu dès hier le ministre de la Défense, Benny Gantz.
L'armée a agi en force ces dernières 24 heures. Au cours de centaines de frappes, les sites de production d'armes, les tunnels et les tours dont se servaient les organisations terroristes se sont effondrés. Et ils continueront à s'effondrer. Il y a encore beaucoup de cibles dans le viseur. Ce n'est que le début.
La détermination du ministre de la Défense israélien, alors qu'à Tel Aviv n'ont cessé de résonner cette nuit les sirènes à l'approche de missiles tirés par le Hamas et le djihad islamique qui revendiquent 300 tirs ces dernières heures. Le chef du Hamas qui promet de continuer à répliquer.
Si Israël veut une escalade, la résistance est prête. Et si Israël veut arrêter, nous sommes prêts aussi. S'ils veulent retirer leurs mains de Jérusalem, nous sommes prêts.
Les de son côté, l'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient s'inquiète d'une guerre à grande échelle.
Notez le rendez-vous à 8h15 ce matin. Daniel Saada, ambassadeur d'Israël en France. 7h04 sur Europe 1, la suite du journal Marion Calais avec des commerçants qui s'activent à l'approche de la réouverture dans tout juste une semaine.
Et si les bars et les restaurants s'attellent à installer leurs terrasses, les personnels se préparent eux aussi. Après 7 mois d'arrêt, l'heure pour certains, même parmi les plus aguerris, est à la remise à niveau. Reportage dans un centre de formation parisien avec ce stage « Manager en temps difficile ». Carole Ferry pour Europe 1.
Une réponse un peu sèche à un client, la bouteille de vin posée au hasard sur la table. Les 10 managers présents savent que les erreurs de personnel seront nombreuses le jour J. Parmi les stagiaires, Serge Bally, il est co-directeur du Café de Flore, 30 ans d'expérience et pourtant, il a besoin de se préparer à cette situation qu'il qualifie d'inédites.
On a des gens qui vont arriver, qui n'ont pas tenu de plateau pendant 7 mois, qui vont reprendre des plateaux qui font 10, 12, 14, 16 kilos. On va se retrouver d'un isolement quasi total, pour certains, se reconfronter aux clients, à la hiérarchie. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être assuré, j'ai besoin d'avoir les clés sur la manière d'aborder cette reprise.
Premier conseil du formateur, Denis Barral, appeler chaque membre de l'équipe avant le redémarrage et revoir complètement son logiciel de management.
Si vous voulez, dans la restauration, la tradition, c'est d'être très directif, de donner des ordres en permanence. Alors là, il va falloir avoir un management beaucoup plus participatif. Vous allez accompagner le collaborateur, lui faire confiance, et même quand il commet des erreurs.
Sans quoi, le risque, c'est d'avoir du personnel qui craque, des arrêts maladie à répétition, et au final, de rater sa reprise.
Être prêt, donc anticiper, c'est aussi ce que veut l'exécutif, dont la stratégie de déconfinement jugée trop rapide, trop précoce, est critiquée par certains médecins et épidémiologistes.
D'où le caractère progressif des réouvertures défendues par les autorités, qui misent aussi sur le suivi des contaminations et les gestes barrières pour éviter tout rebond épidémique, Victor Dolande.
Oui, en étalant dans le temps les règles de réouverture, le gouvernement entend continuer à faire baisser les cas et sensibiliser les Français sur le maintien des gestes barrières. Bien réussir le déconfinement, c'est accepter de ne pas brûler les étapes, me confie un proche du ministre de la Santé, Olivier Véran. En parallèle de la campagne de vaccination, le dispositif de tests va être renforcé. Selon nos informations, un maillage très fin de centres éphémères de tests va être mis en place pendant les ponts et les vacances, sur des aires d'autoroute, dans des gares. Ce déconfinement progressif, l'épidémiologiste Pascal Crépé le juge pertinent, mais il regrette quand même qu'on n'insiste pas davantage sur l'aération.
C'est très clairement une mesure qui permet de limiter le risque de cluster, de cas groupés, notamment dans les endroits confinés tels que les bars, les restaurants, les cinémas, les théâtres, etc. Or, on n'entend pas de recommandations spécifiques sur les niveaux d'aération, de ventilation qui seraient nécessaires.
Un autre oubli, selon lui, il faut davantage inciter les Français à télécharger l'application Tous Anti-Covid pour mieux remonter les chaînes de contamination. Mais une chose est sûre, si on doit comparer les deux phases de déconfinement, on sera mieux armé que l'année dernière. À la même époque, on avait très peu de tests, mais surtout, on n'avait pas de masque ni de vaccin.
Et en vue de la sortie de crise, le gouvernement a trébuché hier à l'Assemblée. Son allié, le MoDem, a refusé dans un premier temps le pass sanitaire. Il a fallu une seconde délibération et une concession de l'exécutif sur la période de restriction des libertés pour que le texte soit finalement adopté un peu plus tard dans la nuit.
Des voitures bientôt plus chères. La confidence du patron de Renault hier sur Europe 1 en cause le coût des matières premières et les pénuries de certains composants.
Et on verra dans le journal de 8 heures que de nombreux autres secteurs pourraient afficher des prix à la hausse en attendant ces pénuries. Elles ont aussi des répercussions dans le monde de la tech. Et Sony fait savoir que la production de sa dernière PlayStation va rester limitée pendant encore un an, Clément Le Saffre.
Et oui, les joueurs vont devoir prendre leur mal en patience. Même si nous pouvions augmenter la production, nous n'arriverons pas à répondre à la demande cette année. C'est la confession faite par le directeur financier de Sony auprès de quelques analystes. Première raison à cela, la pénurie de composants électroniques comme les constructeurs automobiles. Les fabricants de consoles de jeux vidéo manquent de semi-conducteurs. Avec la reprise de l'économie mondiale, il y a embouteillage dans les usines en Asie. Et tout le monde ne peut pas être servi en même temps, selon Aurélien Dutoit, analyste chez Euler Hermes.
La demande en semi-conducteurs est particulièrement volatile, mais l'offre, elle, est particulièrement inerte. La fabrication d'une puce comprend des centaines de process mécaniques et chimiques successifs. Entre le moment où vous décidez d'une augmentation de production et le moment où cette augmentation se matérialise, il peut s'écouler un ou plusieurs trimestres.
L'autre raison qui explique le manque de PS5, c'est l'explosion de la demande. Sony a écoulé 8 millions d'exemplaires de sa nouvelle console en 6 mois, soit autant que pour le lancement de la PS4 en 2013, preuve que la production reste malgré tout élevée. Sauf qu'en 8 ans, le nombre de joueurs a augmenté et encore plus cette année avec le Covid.
En précision, signé Clément Le Saffre pour Europe 1.
Il a passé sa première nuit en prison. La mise en examen hier soir du tueur présumé du policier d'Avignon.
Le jeune homme de 19 ans poursuivi pour homicide volontaire sur personne. Dépositaire de l'autorité publique malgré ses dénégations après 48 heures de garde à vue, Guillaume Bier.
Jusqu'au bout, il a nié les faits en garde à vue. Du haut de ses 19 ans, le meurtrier présumé a soutenu face aux enquêteurs qu'il n'était pas sur le lieu du drame. Pourtant, les policiers ont accumulé les indices à son encontre et lors d'un tapissage, le jeune suspect a été formellement reconnu par le collègue d'Éric Masson comme étant le tireur. L'autre jeune homme arrêté, 20 ans, soupçonné d'être complice, n'a pas eu la même attitude en garde à vue. Il a bien reconnu qu'il était présent lors du contrôle, mais qu'il aurait pris peur et se serait enfui sans assister au tir mortel sur le brigadier. Quant à la sœur du tireur présumé, elle avait été remise en liberté, tout comme le chauffeur qui conduisait les deux suspects vers l'Espagne au moment de leur arrestation. Mis en examen, les deux hommes ont déjà été condamnés pour des affaires de violence ou de petit trafic de drogue. Cette fois, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Guillaume Bier, dans les Cévennes, 200 gendarmes mobilisés depuis hier pour tenter de retrouver l'homme qui a abattu son patron et un collègue. Hier matin, il pourrait être lourdement armé, selon le procureur.
C'est le pays le plus peuplé au monde. Mais selon un rapport dévoilé hier, la croissance de la population chinoise n'a jamais été aussi faible. Le pays vieillit. Et pour cause, les jeunes Chinois sont de plus en plus nombreux à ne pas vouloir ni enfants ni vie maritale. Reportage ce matin à Pékin. Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
Tranquillement installé sur son canapé devant la télévision, Li, 30 ans, défend ce qu'elle appelle un mode de vie, le célibat.
On a plus de liberté quand on vit toute seule, on peut faire ce qu'on veut, manger et dormir quand on veut. Je suis toute seule à décider. Et puis en plus, la vie coûte beaucoup moins cher.
Elle fait partie des 240 millions de célibataires chinois, de plus en plus nombreux dans les grandes villes. Ils sont à l'origine de l'effondrement de la natalité, moins 20% ces deux dernières années. Malgré la fin de la politique de l'enfant unique en 2016, même les couples mariés font moins d'enfants, comme l'explique Madame Liu.
Pour mon logement, c'est très cher. Il faut que je rembourse beaucoup d'argent à la banque. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas avoir un deuxième enfant.
Un changement démographique qui inquiète les autorités incapables de financer les pensions de retraite. James Liang, démographe.
Si on ne fait rien, la natalité va continuer à baisser à un niveau très bas. L'un des plus bas du monde. C'est clairement une situation qui n'est pas tenable.
La Chine réfléchit donc à un système d'allocation familiale à la française et un report de l'âge de départ à la retraite. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
La Chine, désormais premier développeur de projets d'énergie renouvelable, alors qu'en France, certains freins se dressent sur le chemin de ces projets. D'ailleurs, aujourd'hui, la ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Agriculture vont être auditionnés par la mission d'information méthanisation du Sénat. Alors que les contestations locales contre ces projets de méthaniseurs se multiplient, ces méthaniseurs sous lesquels des résidus agricoles fermentent et produisent du gaz. Illustration à Grisel dans le Gâtinais, cas d'école que nous raconte Virginie Salmen.
Oui, c'est une plaine agricole encore très préservée, un petit village de 800 habitants.
Là, il y a un corridor protégé où on voit passer les chevreuils.
Magali Cano, propriétaire d'une ferme à 100 mètres d'un des deux méthaniseurs.
Nous avons les hirondelles qui nichent encore, les grenouilles dans la mare, les chauves-souris à la tombée de la nuit. Donc pour l'instant, tout est extraordinaire pour nous. Et voilà, toute cette partie-là, 8 hectares pris à l'agriculture pour mettre une usine à gaz.
Pour alimenter ces méthaniseurs, il faudra des dizaines de tonnes de déchets végétaux chaque jour, soit un camion toutes les 7 minutes, selon le calcul des habitants, ce que conteste Guillaume Perdereau, agriculteur à l'origine d'un des projets.
La vie des gens ne va pas changer. Ce n'est pas des camions qui vont tourner, c'est des agriculteurs avec leurs remorques et leurs tracteurs.
Les habitants craignent aussi les risques d'incendie, d'explosion ou de pollution des sols. Pour le maire qui les soutient, Claude Madec-Clay, on n'en est plus du tout à une méthanisation agricole.
C'est une méthanisation purement industrielle. Quand on est à 8 hectares de superficie, 8 millions d'investissements ou et la méthanisation agricole.
Pour les habitants, ce sont des céréaliers qui cèdent à la promesse d'un nouvel or vert. Pour les agriculteurs, au contraire, c'est l'avenir de la profession, une façon de diversifier leurs revenus.
Un reportage dans le Loiret de Virginie Salmen.
Et Marion Calais, tiens, je voulais vous faire écouter ce son. Ça nous vient, alors c'était hier soir, hein, cette nuit, ça nous vient de Londres, écoutez.
Tell you how grateful we are to be here tonight for the first live event back in the O2 Arena.
L'O2 Arena, le premier événement live, 4000 personnes pour les Brit Awards. Les victoires de la musique en Angleterre, évidemment. Cérémonie, 4000 personnes, vous vous rendez compte?
Sans masque.
On se prend à rêver un petit peu. Ça va venir, ça va venir. Voilà, c'est juste un petit avant-goût du monde d'après qu'on vous donne ce matin. Merci Marion Calais. C'était le journal de 7h. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.